c'est des questions. Mais si vous pouvez vous rappeler simplement des trois premiers, pas pour faire plaisir à Gabriel, mais quand même parce que c'est important, c'est essentiel. Je me suis aperçu que les prédications se passent de semaine en semaine et on oublie. Parce que vous êtes comme moi, mais on oublie. Alors, en ce qui me concerne, les miennes, j'ai mon cahier depuis que je suis là, toujours le même, donc j'arrive à tout. Je me dis, j'étais fait en telle année, tel mois. Je suis un petit peu surpris parfois parce que le temps passe vite. Et c'est vrai qu'on a une tendance un peu à oublier, c'est un peu la nature humaine hein, qui est comme ça. On oublie le message de dimanche dernier, on oublie le message d'il y a 15 jours, à moins qu'on soit frappé par un passage particulier. Alors ce matin, je voudrais vous emmener en voyage. Ne vous inquiétez pas, vous restez assis quand même pendant tout le message. Mais je me suis aperçu que l'Éternel aime les voyages. D'ailleurs, quand on regarde l'Écriture, il nous est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et à plusieurs endroits dans l'Écriture, il nous est parlé des extrémités de la terre, il nous est parlé des nations hein, qui existent. Et quand on lit l'Ancien Testament, voire même le Nouveau Testament, on voit que des hommes, des femmes ont tout quitté pour suivre le Seigneur, bien sûr, comme on l'a chanté ce matin, mais aussi pour quitter leur province, leur région, leur ville, les endroits où ils sont nés, leurs coutumes. Et tout au long de l'histoire de l'Église, l'histoire qui a eu lieu depuis que Christ est venu, c'est-à-dire depuis 2000 ans, on voit que les missionnaires ont quitté leur pays. Parfois, ça nous paraît un peu presque normal. Mais ça a coûté pour certains beaucoup. Même pour certains, ça a coûté parfois leur vie ou la vie de leurs enfants. Je me souviens d'un pasteur qui maintenant est auprès du Seigneur, était missionnaire en Afrique. Alors je ne sais pas à quel endroit d'Afrique exactement il était missionnaire, mais il racontait cela. Il a perdu un de ses enfants dans ce pays-là. Et puis, il y a des coutumes aussi. Je me souviens de ce qu'il disait, il le disait en riant, bien sûr. Mais un jour, il est allé dans une tribu où il était invité en tant que pasteur, en tant que missionnaire. Et dans cette tribu-là, la coutume était qu'on offre à celui qui était invité la meilleure part du repas. Et la meilleure part du repas, c'était un singe qui était honoré, enfin qui était présenté. Et tout le monde attendait qu'il mange en premier, parce que c'était la coutume. Et ce frère nous disait, la tête du singe me regardait. Et je regardais la tête du singe. Et tout le monde le regardait. Et bien sûr, il a fallu qu'à un moment, il mange ce qui était la meilleure part, en fin de compte, qui était la tête du singe. Ce n'est pas quelque chose de courant pour lui. Et il l'a fait. Il l'a fait pour. Parce que c'était la coutume. Et je pense aux missionnaires aussi, maintenant qui sont des missionnaires africains, qui viennent en Europe en tout cas, parfois ils leur coûtent aussi pour s'habituer aux coutumes. Si on leur offre des cuisses de grenouille, ils ne sont peut-être pas toujours enclins à les manger, ou les escargots. Nous, on les mange, même pas particulièrement. Mais pour certains, ça gêne. Les gens qui sont, en tout cas, l'histoire de plusieurs qui sont originaires de d'autres endroits. Alors, je voudrais regarder avec vous 9 versets. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Ça représente quand même quelques années. Donc, il faut lire entre les lignes, entre les comment ? Oui, entre les lignes. On se trouve dans Genèse, bien sûr, au chapitre, dernier verset du chapitre 11 et du chapitre 12. C'est l'histoire de... Il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Hein, ça s'écrivait différemment. Il avait à peu près 70 ans, 75 ans. Et il était dans la ville d'origine, là où il était né, là où il avait grandi, là où il s'était marié, avec sa reine, ça ne fait pas encore ça, Et au chapitre 11, il nous est dit, verset 31, Terach, qui était le père d'Abraham, il prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Abraham, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, Mésopotamie, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Et juste 9 versets qui représentent des années et des années pour Abraham. Il nous a dit quoi ? Qu'il habitait à Ur. Ur, c'est... on a vu des cartes de l'Iran, de l'Irak, vous savez, qui se sont plus ou moins battus. Il y a le Tigre et l'Euphrate qui descendent comme ça, et Ur est complètement dans le bas de la Mésopotamie, de la Chaldée. Et peut-être vous avez ça sur vos Bibles, sur les cartes qui sont données. Et quelques années après, alors là, c'était environ 40 siècles hein, de ça. Mais il y a 20 siècles plus tard, il y a eu une ville qui était très connue qui s'appelait Babylone. Babylone était dans la même région, c'est pas au même endroit même, mais c'était en tout cas dans la même région. Mais les gens de Ur étaient là, ils ne se souciaient pas du tout de l'Éternel. Ils n'en avaient rien fait. Ils avaient même des... On dit des je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, enfin bon, ça représente à peu près 50 mètres de haut, et ils avaient l'habitude de monter en haut de ces endroits, enfin de ces... Oui, je ne sais plus le nom, comment ça s'appelle, c'est un nom un peu compliqué, de ces pyramides, mais ce n'est pas le mot pyramide, hein, c'est autre chose. Et ils allaient là pour adorer les divinités. C'est-à-dire qu'ils essayaient, ils n'avaient pas de télescope, mais ils regardaient le ciel, ils regardaient les astres, et ils s'imaginaient toutes sortes de divinités qui existaient. Et Abraham, qui avait 70 ans, 75 ans, il avait été élevé par sa famille, par son père, par Terach et tout, ils observaient les astres, les divinités. Et c'était leur but, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui les touchait particulièrement. Et quand, quand ils sont allés là, en tout cas, quand ils étaient présents là, Abraham était, comme tout, il ne s'occupait pas de l'Éternel. Il n'avait jamais entendu parler. Il n'aimait pas particulièrement. Et c'est là le premier point que je vous invite à retenir. Il nous est dit au chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham. C'est pas Abraham qui a cherché l'Éternel. C'est l'Éternel qui a cherché Abraham. Ce n'est pas nous qui avons choisi de suivre le Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu nous chercher. Ça n'a pas changé au cours de l'histoire, c'est toujours la même chose. C'est l'Éternel qui vient chercher les hommes et les femmes pour être à son service. L'Éternel dit à Abraham, la parole de Dieu est efficace. C'est dans, je l'ai noté quelque part, Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je vais faire le livre. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons revoir. Le Seigneur nous connaît avant même qu'on lui ait dit oui, avant même qu'on ait hésité à lui dire oui, le Seigneur nous connaissait. L'Écriture nous dit même que le Seigneur nous connaissait avant même qu'on soit sur terre, avant même qu'on soit né. Il nous connaissait. Et mieux que cela, il nous avait choisis. Pourquoi? Parce que nous étions meilleurs que quiconque dans l'autre. Nous sommes tous des hommes et des femmes pécheurs, séparés. Nous n'avons pas à remettre en cause, en tout cas, ce que nous dit l'Écriture de ce côté-là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, par grâce, Dieu est venu nous chercher. Hier, on était à Idéa, ici en haut. Et on se disait qu'en fin de compte, le Seigneur est venu nous chercher par grâce. On n'a rien fait. Et c'est parce que le Seigneur nous a sauvés par grâce, nous a acceptés par grâce, que l'on est obéissant. On obéit au Seigneur parce que le Seigneur est venu nous prendre et est venu nous chercher par grâce. C'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'on est obéissant que le Seigneur nous donne sa grâce. Non, c'est parce que le Seigneur nous donne sa grâce, le résultat c'est qu'on est obéissant. En tout cas, on doit l'être obéissant. Et si vous souhaitez, comme on a chanté, suivre Jésus, honorer le nom de Dieu, bien on doit le faire dans l'obéissance. Sans obéissance, c'est plus. Et quand l'Éternel s'est adressé à Abraham, non seulement c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui choisit. Vous savez, quand je relisais un petit texte cette semaine, la semaine dernière, je crois que c'est Michel-Ange. Un jour, il se promenait avec quelqu'un de son entourage, en tout cas un guide à lui, enfin quelqu'un qui travaillait pour lui. Puis il lui dit, là-bas, le rocher, là. L'ange, oui, plus exactement, il lui dit, l'ange qui est là, tu le prendras et tu le ramèneras dans l'atelier. Et le serviteur, l'ange. Michel-Ange avait vu simplement une pierre. Il avait vu une pierre de grès, enfin je ne sais pas avec quoi il taillait exactement. Mais il avait déjà dans son esprit vu qu'il allait faire de cette pierre un ange. Mais vous savez, le Seigneur, c'est pareil. Quand il a vu Abraham, quand il a choisi Abraham, quand il s'est adressé à Abraham, il a vu Abraham. Et l'Écriture nous dit que Abraham, c'est notre père. Il est le père de tous ceux qui ont cru par la foi. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. C'est parce que cet homme était rempli de foi qu'il est devenu le père de tous les croyants, l'Écriture nous dit, afin que nous soyons... C'est notre père qui nous a montré le chemin, en tout cas, que nous devons avoir la foi en Christ, la foi en Dieu. Et quand l'Éternel s'est adressé à Abraham, comment? On l'a pas lu, non? Là, il faut lire entre les lignes. Est-ce que le Seigneur s'est adressé directement par une voix que Abraham a entendue? C'est possible. Par un ange? Bon, l'Écriture n'en parle pas. Par un songe? L'Écriture n'en parle pas non plus. Peu importe comment le Seigneur s'est adressé. Et pour nous, en ce qui nous concerne, peu importe comment. Est-ce que c'est par un chef? Est-ce que c'est en lisant l'Écriture? Est-ce que c'est en entendant une méditation, un message? En entendant quelqu'un qui vous cite un verset? Je ne sais pas de quelle manière le Seigneur peut nous parler. Mais il y a un moment, un certain moment, où on est confronté à la parole de l'Éternel. Alors, on la refuse, on lui dit non, on cherche des excuses, comme beaucoup font, on accepte Christ. Abraham, je vous ai dit, il avait 75 ans, il était jeune homme encore. Il est décédé à 175 ans, il n'était pas encore au milieu de sa vie. Alors, je ne sais pas si à cette époque-là, à 75 ans, on était encore en pleine forme. Aujourd'hui, c'est plus dur. Hein? Mais bon, en tout cas, c'était cela. Il avait des amis. Il avait sa famille, bien sûr. Il avait des voisins, des amis. Il avait un travail. On nous a dit qu'il avait il avait déjà beaucoup de troupeaux, déjà à cette époque-là. Ur était une ville qui était assez... c'était pas une petite ville, c'était une ville assez importante où les gens étaient installés. Et alors, l'Éternel lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, ou dans le pays que je te montrerai. Où il est, le pays? Il n'est pas à côté. C'est pas 3 kilomètres à côté. Et alors, on peut s'imaginer les amis, les voisins, les gens en train de rire. Ah, dire, mais quoi, tu veux partir? Tu veux tout quitter? Ta région, tes coutumes, ta vie, en fin de compte, pour aller suivre quelqu'un qui te dit, va, je te montrerai ce que tu veux. Vous savez, dans la vie chrétienne, des fois, quand on veut marcher avec le Seigneur, c'est un petit peu ça. Le Seigneur nous montre la voie, certains l'ont chanté, vous l'avez chanté ce matin. Mais le Seigneur nous demande parfois beaucoup plus. Pour les missionnaires qui sont partis à droite, à gauche, c'était beaucoup. Je pense à Hudson Taylor qui est parti en Chine, à tous les missionnaires qui sont partis de leur pays. Ils ont tout sacrifié. Et ça m'a fait penser à la parole de comment. Alors attendez, je ne sais pas si je le retrouve. Eh bien, je ne vais pas le retrouver. Donc, vous allez m'aider. Attendez, c'est dans l'évangile, parce que c'est une parole de Jésus. Alors, Marc, chapitre 4, verset 26. Je crois que c'est celui-ci. Je note tellement de choses que j'oublie. Non, c'est pas celui-là. Alors, si c'est pas Marc, c'est un autre. C'est un autre. Mais vous connaissez, vous savez, quand Jésus dit si vous n'êtes pas prêt à haïr votre épouse, votre femme, si vous n'êtes pas prêt à haïr vos parents, si vous n'êtes pas prêt à haïr vos enfants, si même vous n'êtes pas prêt à vous haïr vous-même, vous n'êtes pas digne de suivre Christ. Suivre Christ, ça demande beaucoup plus qu'on le pense. Il ne faut pas continuer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer ses parents, attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer son épouse. Quelqu'un vous le dit assez. Le Seigneur Jésus le dit. Celui qui aime son épouse, comme Christ a aimé l'Église, on en a déjà parlé. Mais il y a un moment où le Seigneur doit avoir la première place. Et quand le Seigneur nous demande de le suivre, de l'aimer, de le considérer, il doit avoir la première place.
C'est Marc 10, verset 29.
Marc 10, verset 29. Ça va être ça. Marc 10, verset 29. Marc 10, verset 29. Oui, entre autres, vous voyez ce que là, mais je crois qu'on le retrouve aussi à d'autres endroits dans les évangiles. Bon, Jésus répondit : je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses pères, ne reçoit au sort du peuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions dans les siècles à venir de la vie éternelle. Ouais, c'était pas celui-là, mon François de Père. C'est un qui me dit en tout cas la même chose. Alors, pour en revenir à comment à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Verset 4, chapitre 12 de Genèse. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Il partit. C'est-à-dire, il obéit. L'Éternel appelle, il obéit. Il obéit. Avoir la foi, c'est obéir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, il n'y avait pas de GPS. Il ne savait même pas où il est. Et si vous regardez vos cartes, les cartes qui sont dans l'écriture, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile, ils ont monté toute la vallée et en Mésopotamie, et ils se sont retrouvés dans le nord. Le nord, c'est la Turquie, l'est de la Turquie à l'heure actuelle, Charan, Aran maintenant, et ensuite ils sont redescendus direction la terre, terre promise, les terres promises que Moïse dit, il dit la terre promise, vers Canaan, vers Sichem, vers l'entrée en tout cas du pays de Canaan. Ça doit représenter de Ur à peu près pas loin de 2000 km, pas loin en tout cas de 2000 km. Donc ça a mis plusieurs années en tout cas, et ils se sont même installés à Charan, à Aran. Ils se sont installés ici pendant quelques années. Alors les exégètes sont un petit peu d'avis différents, hein, mais je pense qu'il est resté, en tout cas, ils ont habité dans la région de Turquie dans le nord environ minimum 5 ans, maximum 15 ans. Et l'Écriture nous dit que là, c'est là qu'il a eu, beaucoup de troupeaux, il a eu beaucoup de serviteurs qui étaient à son corps. Il était responsable, ben oui, il était chef d'entreprise, ce qu'on pouvait dire à l'époque. Hein. Mais en tout cas, il est parti, il n'avait pas de GPS. Il ne voyait pas plus loin que nous, ici, on voit 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Et il est parti. On me rappelle, il y a quelques années maintenant, notre fils aîné était tout petit, il avait 2 ans. Donc ça remonte un peu loin. On en parlait avec Suzy dernièrement. On a décidé de partir en vacances. Une bonne chose de partir en vacances. Mais alors, ce qu'on avait décidé, enfin, ce que j'ai décidé, c'est que je savais où on allait. Suzy ne savait pas. Le petit qui avait 2 ans, lui, ça l'emmerdait pas. Mais Suzy ne savait pas. Et quand on est parti, j'avais acheté les billets, on était parti à l'aéroport et tout, Suzy ne savait pas où on allait. Et elle a joué le jeu. Elle a dit, bon, d'accord, on n'en parlait pas, j'ai fait mon inscription là où il fallait, enfin, bon, ainsi de suite. Et c'est simplement, une fois que tu es monté dans l'avion, hein, c'est ça, une fois que tu es monté dans l'avion, le fait, je lui ai dit, mais c'est la première fois que vous allez à... C'était au Maria, au Mallorca, qui allait. Je lui ai dit, oui, c'est là qu'elle a appris qu'on allait à Mallorca, mais elle ne le savait pas du tout. C'est une surprise. La seule chose qu'elle savait, et que Abraham ne savait pas, c'est qu'on allait revenir 8 jours après. Abraham ne savait pas. Il ne savait pas qu'il allait rester 20 ans de ton pays. Il savait qu'il quittait sa patrie. Il savait qu'il quittait sa patrie. Et il allait dans le pays que l'Éternel lui montra. La foi n'est pas un accessoire. Je l'ai un petit peu plus aujourd'hui. La foi n'est pas un accessoire pour plaire à Dieu, pour honorer le nom de Dieu. Il en a coûté sans doute pour Abraham d'avancer, de partir, de marcher avec lui. Et toute sa vie, en fin de compte, vous le savez tout autant que moi, c'était ça. L'Écriture nous parle souvent de nations, allez faire de toutes les nations des disciples. Dans Romains, au chapitre 10, versets 14 à 17, on peut le lire aussi parce que c'est vraiment un beau passage. Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je dis, n'ont-ils pas entendu, au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis Israël, leur racine. Moïse, le premier, dit « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère et une nation sainte sans intelligence. » Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient rien, pas qu'ils ne demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Non, c'était pas ça. Bien sûr, on peut vous dire autre chose. C'est verset 14. Alors, comment donc, c'était juste avant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et là, on voit que Esaïe dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais ensuite, c'est ce que je viens de dire. Alors, Abraham est parti. Confiant. Il ne savait pas. Mais il est parti. Et j'espère que quand on accepte le Christ, on ne sait pas. On ne sait pas qui est Seigneur. On apprend à le connaître par l'obéissance, et l'obéissance nous amène à la foi. Et on persévère avec le Seigneur. Et au bout de quelques temps, de quelques années, de quelques mois, on se dit, ben, en fin de compte, heureusement, comme on l'a dit, je crois, ce matin, tu l'as dit, Mathieu, heureusement que j'ai marché avec le Seigneur, que je suis resté fidèle. C'est pour ça que je dis souvent, des fois où je suis allé, j'ai dit, si vous acceptez le Seigneur quand vous êtes jeune, vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous suivez le Seigneur, vous avez envie de vivre avec le Seigneur, c'est une bonne chose. Parce que toute votre vie, vous serez fidèle avec le Seigneur. Abraham n'était pas parfait. On voit qu'il avait exercé auprès des divinités son enfance. En tout cas, une bonne partie de sa vie. Abraham est décédé à 175 ans. Il dit ça. Il était donc à peu près au milieu de sa vie. Mais Abraham n'était pas parfait. D'ailleurs, quand il est arrivé en Égypte, sa femme, qui était belle de visage, une écriture aussi, tu vas te faire passer pour ma sœur. Parce que si on dit que tu es mon épouse, on va me tuer rapidement. Donc, un petit mensonge, ça me met de côté et ça évite en tout cas que je suis pas. J'en veux pas au Seigneur, mais bon, si vraiment ça peut faire quelque chose. Et alors là, lorsqu'il va se retrouver dans le nord, là-bas, vers la Turquie maintenant, à l'heure actuelle, à Chagan, là il va se passer quelque chose d'extraordinaire, qui ne s'y attendait pas sans doute, et auquel nous devons prendre conscience. C'est que l'Écriture nous dit qu'à Haran, donc Charan, ils sont arrivés là, ils ont habité là, ils sont devenus de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Il y a quelqu'un qui est décédé, Charan. Et c'est le père d'Abraham, Terach. Il avait 205 ans quand il est décédé. Vous savez, dans Genèse, je reviens dans Genèse, chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Et c'est Terach, le père, qui est parti avec son fils Abraham, Lot, qui était le neveu d'Abraham, parce que son frère était déjà décédé, donc c'est lui qui avait la charge de l'homme. Ben, oui, je crois que Dieu le veut. Mais le Père, Abraham, est parti. Le Seigneur ne l'avait pas appelé. Il avait appelé Abraham. Abraham. Il n'avait pas appelé Terach, le père d'Abraham. Et Terach n'a pas vu Canaan. Il n'est pas rentré. C'est juste Abraham et sa famille, sa femme, son neveu, et puis bien sûr son troupeau et tout, monsieur, qui sont rentrés dans Canaan. Mais le père d'Abraham n'est pas rentré dans Canaan. Quand on vient au Seigneur, on vient personnellement. On ne vient pas parce que mon père me dit de venir. On ne vient pas parce que mon fils me dit de venir. On ne vient pas parce que tel voisin me dit de venir, ou tel membre de ma famille me dit de venir, parce que mon épouse me dit de venir, parce que mon conjoint me dit de venir. Quand le Seigneur nous sauve, c'est personnellement. On ne pourra pas dire un jour, quand on sera en présence du Seigneur, moi, Seigneur, mes enfants, vous t'aimez bien. Mon père, vous t'aimez bien. Mon épouse, vous t'aimez bien. Mon époux, il t'aime bien. Seigneur, il dira. J'imagine. Je ne sais pas si on pourra lui dire, d'ailleurs. Parce qu'il lui connaît toutes choses. On n'a pas d'excuse. Les excuses, on les a pas. Quand on désobéit, personnellement, on désobéit, c'est quelque chose de personnel. Le Seigneur nous donne sa grâce. Je l'accepte. Alors, j'obéis au Seigneur parce que j'accepte la grâce. Mais si je désobéis au Seigneur, ça veut dire que je ne prends qu'une partie de ta grâce, celle qui me permet de manger tous les jours, et pas celle qui me permet de donner à manger aux autres. Vous voyez, c'est un exemple que je donne comme ça. L'appel n'est pas collectif. On peut parler à plusieurs personnes à la fois, mais l'appel n'est pas collectif. Alors voilà, c'était dans Luc. Je crois que c'est Luc chapitre 14. On retrouve le verset que Joël nous a donné. Luc chapitre 14, je retrouve là. Verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas et peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, bon, ensuite, et Jésus explique, ben, vous le regarderez dans Luc au chapitre 14. Si quelqu'un vient à moi, il ne haït son père et sa mère. Voilà, le Seigneur nous demande parfois beaucoup. Il demande beaucoup. Mais c'est le prix de sa grâce. C'est le prix de sa grâce. La désobéissance, l'obéissance. Alors, le quatrième point, ils sont restés donc une quinzaine d'années, en France, entre 5 et 15 ans en tout cas, dans le commun. D'ailleurs, dans Ésaïe, on regarde là, dans Ésaïe, au chapitre 51. Parfois, il faut lire un petit peu dans d'autres textes pour comprendre ce que le Seigneur veut dire. Au verset 2, il est dit « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous enfantait, car lui seul je l'ai appelé et je l'ai béni. » Le Seigneur avait choisi Abraham, lui seul. Alors, ils sont arrivés après Aram, comme on veut, ils sont arrivés à Sichem, Si j'aime, vous savez, la femme samaritaine, quand Jésus était assis sur le au bord du puits, c'était dans la région de Sichem. Sichem, c'était la Samarie, c'est la porte à l'époque de Jésus. Et donc, aujourd'hui, c'est la pelouse. Hein. Donc, ici, le Seigneur va lui dire une deuxième fois, en tout cas, la promesse. Voilà, tu arrives dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan, il sera pour ta postérité. Là, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a construit un autel. Il n'a pas construit là-bas. Il n'a pas construit à Charan ou à un autre endroit. Pourtant, il avait fait presque 2000 km. Il a su qu'en arrivant à Sichem, c'était là le pays que l'Éternel allait lui donner. Alors, son GPS n'a pas fait bip-bip en disant voilà, tu es arrivé. Il en avait pas. Mais comment le Seigneur lui a confirmé que c'était cet endroit-là, je ne le sais pas. Mais en tout cas, il l'a confirmé, il lui a dit, et Abraham a construit un hôtel. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, j'adore le Seigneur. Il m'a emmené là où il a dit qu'il m'emmène. Et ils sont descendus un petit peu plus bas, toujours dans le camp, à Bethel. Bethel, c'est maison de Dieu, ça veut dire. Et là, il a construit un deuxième hôtel aussi. Alors, l'histoire d'Abraham ne s'arrête pas là. Ils sont partis en Égypte, ils ont fait différentes choses. Mais en tout cas, entre Ur et Canaan, voilà l'histoire d'un homme. L'histoire d'une famille, l'histoire de quelqu'un qui a mis sa confiance. Le Seigneur nous parle par sa parole aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Deuxième point, par la foi. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, sans la foi, il est impossible. On peut faire tout son œuvre. Tout. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, Hébreux, chapitre 11, c'est le chapitre qui parle de la foi. Quand on veut lire là, on lit là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et au verset 8, ça confirme ce qu'on vient de dire ce matin. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Voilà ce que l'Écriture nous dit. La vie d'Abraham est riche. Il a offert son fils en sacrifice, comme Dieu lui a demandé sa postérité. Il a fait de bêtises aussi. Il n'était pas un homme parfait. Pourtant, il était un homme considéré. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Et nous sommes choisis par le Seigneur. Et nous sommes aux yeux du Seigneur des hommes et des femmes qui ont de la valeur. Il ne faut pas être négatif. Vous ne savez pas parler? Alléluia! Vous ne savez pas chanter? Alléluia! Vous ne savez pas jouer des instruments de musique? Je ne sais rien. Alléluia! Nous sommes incapables? Alléluia! Parce que le Seigneur veut des hommes et des femmes. Vous savez, on a chanté dimanche dernier. Tel que je suis, je viens à moi. Je ne peux pas faire mieux. Tel que je suis, je viens à moi. Et bien le Seigneur veut des hommes et des femmes. Tel que nous sommes, on vient à lui. Tel que nous sommes. Et si on le laisse nous façonner, il sort de nous. Des bases agréables. Il est le potier. Que le Seigneur puisse nous aider. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Parce que ta parole est merveilleuse. Lorsque, Seigneur, nous lisons quelques versets comme ce matin, nous allons à droite et à gauche, un livre, Seigneur, qui parle de, comme ce matin, Seigneur, d'Abraham, nous nous rendons compte, Seigneur, que tu as fait de lui, Seigneur, quelqu'un de bien. Cet homme était rempli de foi, Seigneur, une foi totale en toi. Et aujourd'hui, Seigneur, il est pour nous un exemple. Je te prie, Seigneur, de nous aider à regarder et à être attentionnés à ce que tu veux, Seigneur, pour nous. Seigneur, nous ne sommes pas des hommes et des femmes parfaites, mais en toi, Seigneur, nous avons confiance. En toi, Seigneur, nous mettons notre foi et notre confiance. Que le restant, Seigneur, de notre vie, de notre journée, de notre année, Seigneur, soit vraiment de ton nom. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses à t'aider. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses à marcher avec toi. Seigneur, nous ne serons pas déçus comme on l'a chanté ce matin, on l'a lu pas dans l'Écriture. Nous ne serons pas déçus par ce que tu feras en nous. Seigneur, il y a des moments difficiles dans nos vies. Il y a des moments, Seigneur, où on peut être abattu. Mais Seigneur, nous te prions, Seigneur, que notre foi en toi puisse progresser et puisse grandir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être aussi des exemples pour nos enfants, pour nos familles, pour nos amis, que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi dignement. C'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce, parce que ce matin, Seigneur, tu es là pour nous aider dans nos faiblesses. Au nom de Christ, nous te prions.